bien donner un titre au message, à mes messages. Donc j'ai cherché un titre, mais bon, ce n'est pas toujours facile. Le premier titre qu'on pourrait donner, c'est « Comment choisir le roi ?» ou alors « Comment choisir un bon roi ?» Et après, j'ai une réponse à un verset. Mais ce verset, pour faire un titre, c'est un peu long. Mais tant pis, je l'ai quand même mis. Et c'est un verset qui se trouve dans 1 Samuel 16, verset 7, qui dit ceci. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » En effet, ce matin, je voudrais partager avec vous un petit bout de la vie de David, qui est devenu roi. Et je vais plutôt m'intéresser en fait au début de sa vie et la façon dont Dieu l'a conduit et l'a amené à devenir roi. Alors, le contexte à ce moment-là, c'est la fin du temps des juges. Il y avait des juges qui étaient instaurés. Et c'est une période qui se finit à peu près 11 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Donc c'est quand même ancien, effectivement. Et à cette période, le mouvement qui s'est achevé, il s'est achevé dans le désordre. J'ai lu un commentaire où il est dit « Chacun faisait ce qui lui semblait bon », ce qu'on appelle l'anarchie. Donc voilà, il y avait un rejet. Et en fait, le peuple ne voulait plus du régime théocratique et surtout de l'autorité de Dieu. Donc effectivement, théocratique, ça, j'ai regardé des traductions, ça paraît bizarre, mais ça veut dire « gouvernement par Dieu ». Donc pour être plus précis, souvent c'est en fait un régime politique dont l'autorité est exercée par des leaders d'une religion ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Alors il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça, l'Arabie Saoudite, l'Iran, où on sait que tout est lié, la politique et la religion, tout est lié, c'est les religieux qui commandent. Plus près de nous, il y avait cet exemple, la cité du Vatican, qui est considérée comme ça. Et en fait, elle est gouvernée par le pape, qui en est théoriquement un monarque absolu. Donc voilà, c'est pour situer la chose. Et voilà pourquoi, à ce moment-là, le peuple d'Israël, eux, ils veulent un roi souverain, parce que pratiquement toutes les nations qui étaient autour d'eux fonctionnaient comme ça. Et en retravaillant ce texte, je me suis rappelé, il y a quelques années, mais c'est vraiment vieux, que j'avais un petit peu abordé ce sujet, et à la fin du message, un frère est venu me dire « T'as commis une erreur ». Oui, ok, je veux bien entendre. T'as dit que Saül avait été nommé par Dieu. Et David, j'ai dit « Bon, je ne sais pas, je n'ai pas développé ». Effectivement, c'est David qui a été nommé par Dieu, mais en retravaillant, je me suis aperçu que ce n'est pas aussi simple. Et on va voir pourquoi. Parce qu'effectivement, Saül, c'est le peuple a demandé un roi, et on verra que Dieu quand même était présent dans ce choix. C'est juste une parenthèse, mais en y ayant travaillé plus, j'ai retrouvé ça. Alors, effectivement, nous voyons dans le chapitre 9, c'est dans 1 Samuel tout ce que je vais vous dire, à partir du chapitre 9. Donc Dieu s'adresse à Samuel, et il lui dit, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. » Et ça, c'est Dieu qui dit à Samuel d'aller faire ça, concernant Saül. Donc on voit quand même qu'il y a la main de Dieu quelque part derrière. Et puis plus loin, il nous est dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, donc il s'adresse à Samuel, c'est lui qui règnera sur mon peuple. » Alors il faut savoir que si vous lisez les textes, que tout, on va dire, Dieu, au travers de la voix de Samuel, a essayé de décourager le peuple de nommer un roi. Parce qu'un roi, il a tout pouvoir, vie de mort. Alors, je n'ai pas développé, mais un roi, il fait ce qu'il veut une fois qu'il a le pouvoir. Et donc, c'est aussi pour ça que Dieu voulait attirer l'attention du peuple dans leur choix. Par contre, comme Samuel, il était un peu coincé parce que c'était le dernier juge, et c'était un prophète en même temps qui parlait pour Dieu, par la voix de Dieu. L'Éternel a dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple. » Donc effectivement, le peuple est bien aussi mêlé dans ce choix de vouloir un roi. Hein, « Dans tout ce qu'il dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » On sent que Dieu, effectivement, fait tout pour rassurer Samuel, comme je l'ai dit, qui était vraiment pris entre le peuple et Dieu. Un commentaire que j'ai lu disait ceci, alors sur David, dont on va parler à nouveau. Il disait ceci, « David, c'était le roi que Dieu a choisi, donc c'est confirmé, mais Dieu a validé le choix pour Saül, pour satisfaire le peuple et les laisser faire leurs expériences, les laisser voir comment ça se passerait. En lisant tout cela, et je vous expliquerai après que je n'ai pas inventé beaucoup de commentaires, je pense aussi qu'à nous, il nous arrive aussi que Dieu nous laisse aller dans une direction qui nous paraît bonne pour nous, mais qui n'est pas forcément la bonne pour Dieu. Et de toute façon, tout doucement, comme on le verra plus tard, il va nous amener vers le but qu'il nous a fixé. Mais on aura toujours le choix. Il faut le savoir qu'on aura le choix. Le plan de Dieu, là, se met en place pour son peuple, mais surtout aussi pour l'humanité. Parce que je vous rappelle, et c'est dans le premier verset du Nouveau Testament, dans Matthieu, Jésus est présenté comme étant le fils de David. Donc on voit que David, c'est une base importante dans la Bible. Je vous rappelle aussi que David est né à Bethléem et Jésus est né à Bethléem. Donc on voit déjà le plan de Dieu qui se met en place pour beaucoup plus loin. Malheureusement, donc, Saül, en tant que roi, il dérape complètement et Dieu rend son verdict. Voilà ce qu'il dit. « Tu as agi en insensé », donc il s'adresse à Saül, « tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Donc on voit que Dieu, il était prêt à être avec Saül, à l'aider. C'est Saül qui a lâché le morceau. Hein. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef du peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc effectivement, Dieu ferme une porte. Et l'Éternel dit encore à Samuel, parce que comme je l'ai dit, Samuel était vraiment pris entre deux. Cette phrase est marrante. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus en Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaï, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et Samuel, il avait un peu peur pour sa vie, parce qu'il s'est dit, si je vais là-bas, le roi, si Saül l'apprend, mais Dieu lui donne un petit peu la combine pour justifier ce déplacement et aller chercher le futur roi. Alors, Isaïe présente alors ses sept fils à Samuel. Et là, Samuel, il remarque, c'est plus ou moins écrit comme ça dans le verset, la stature d'Éliab, l'aîné. Alors Samuel pense alors, c'est certainement lui, loin de l'Éternel. Mais comme je l'ai dit dès le début, Dieu est en train d'enseigner à nouveau quelque chose à Samuel, parce que ses critères de choix ne sont pas les nôtres. Et Samuel regardait encore Éliab, quand Dieu lui dit, ce verset que j'ai cité au début, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Voilà le verset qu'il donne, ce qu'il dit. Ceci a aussi amené un commentaire dans ce que j'ai lu qui disait ceci, « Ne vivons-nous pas l'époque du tape à l'œil ?» Alors on a envie, on admire son voisin, son patron, son collègue de travail, parce que lui, il est le seul à avoir une belle BM, ou on va dire Mercedes et Audi, on va citer d'autres, voilà. Vu qu'il possède aussi une résidence secondaire, je vais dire dans le Midi, parce que je suis chauvin, voilà. Et puis en plus, il a une femme qui a des super bijoux, elle a même un manteau en fourrure. Bon, ça, c'est plus la mode non plus, les manteaux en fourrure. Hein. Le livre est un peu vieux, vous comprenez pourquoi. Voilà. Et un tel, par sa tenue toujours soignée, toujours un gars qui est toujours bien habillé, on voit à travers sa façon d'être, son train de vie, on peut le deviner. Et en plus, bon, c'est le gars qui est très éloquent. Et du coup, c'est dans la société, c'est lui qui va attirer l'attention. C'est aussi vrai, quelquefois, dans l'Église de Jésus-Christ, où l'on s'accroche aux apparences et quelquefois, on méprise, c'est un mot qui est fort, les qualités de cœur que parfois le Seigneur recherche dans l'Église. Il y a eu des allusions à l'amour que nous devons partager et toutes ces choses-là. Et aussi, d'ailleurs, notre apparence, elle est bien matérielle. Mais, nous le voyons, pour Dieu, ce n'est vraiment pas l'essentiel. Nous sommes portés, effectivement, un petit peu par tout le tape à l'œil, par tout ce qui est brillant, et impressionnés par tout cela, mais ce n'est pas là que Dieu nous attend. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit venir mal habillé. Hein. Je n'ai pas dit non plus qu'on doit être habillé, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. J'ai lu aussi ce commentaire qui disait « David était un homme selon le cœur de Dieu, tellement rempli de Dieu qu'il n'était pas rempli de lui-même. » J'ai trouvé très beau cette phrase, « tellement rempli de Dieu qu'il n'était même pas rempli de lui-même. » Pas du tout, quoi. Il était tellement préoccupé d'accomplir la volonté de l'Éternel qu'il en oubliera la sienne, au point que Dieu a vu en ce jeune berger les qualités de berger d'âme et de conducteur de peuple dont il avait besoin. Et là, Samuel, quand il a vu toute la famille, il a dû dire, de la part de l'Éternel, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et c'est là qu'il a dû demander, mais il n'y a plus personne dans ta famille. Ah oui, il y a le huitième, il est dans les pâturages en train de garder les brebis. Ah, bon, ben, il faut le chercher. Là, c'est pareil, je partage un commentaire par rapport à cette scène. J'ai dit, cela a pu arriver, ou est peut-être arrivé à chacun de nous, d'avoir un peu vécu cette situation d'être le petit David. Le petit David qu'on oublie, le petit dernier qui est tellement discret, doux et humble. On l'oublie complètement et même des fois dans les familles, on l'exclut un peu ou il se fait exclure d'un groupe. Ce commentaire disait, si vous vous sentez incompris et rejeté, rappelez-vous que le Seigneur Jésus, qu'on vient de célébrer, a aussi été rejeté. Et lui, il nous voit du ciel. Et il vous voit dans votre pâturage, dans votre bureau, dans votre ferme, dans votre école, dans votre famille, il vous voit. Et il a ce plan d'amour et de grâce pour chacun de nous. Donc on va chercher David dans les pâturages, on le présente à Samuel, et là le texte dit, il est dit de lui qu'il était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. C'est marrant, c'est pour Saül aussi, hein, il avait de la prestance, hein. Il y a quand même ça ressort, c'est assez clair. Et là l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Voilà un rapide dénouement, une situation. Bon, je la résume, mais ça s'est passé assez vite. Donc, il a pris la corne d'huile et l'a loigné au milieu de ses frères. On imagine la tête des frères, parce qu'il y avait beaucoup de commentaires là-dessus. Ils n'étaient pas très contents. Alors, David n'a pas du tout été choisi pour sa beauté, malgré qu'apparemment il était pas mal, ou pour son courage, parce qu'il avait fait preuve en tant que berger. Il avait réussi à chasser un lion et un ours. Dieu l'a choisi parce que son cœur battait à l'unisson du sien. David avait un cœur humble pour apprendre dès sa jeunesse à dépendre de Dieu. Il est dit aussi en 1 Samuel chapitre 16, « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour dans la suite. » Un peu plus bas, un verset qui est plus difficile, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Alors j'ai souligné cette phrase parce que là aussi il y avait des commentaires, un mauvais esprit venant de l'Éternel, ça pourrait nous choquer. Mais en fait les commentaires expliquent que ce n'est pas l'Éternel qui a donné ce mauvais esprit, l'Éternel a laissé faire les mauvais esprits. Et on trouve dans le Nouveau Testament quand il a chassé des démons, quand il a... Et là, Saül a ouvert son cœur aussi et l'Éternel effectivement a laissé faire Saül dans son choix. Et donc... Il s'est retrouvé à la merci d'un mauvais esprit, tant il avait désobéi, en fait. David est à l'école de Dieu. Il obéit à Dieu, qu'il envoie auprès de Saül. Pour l'instant, notre jeune berger, il joue de la harpe auprès du roi. Il est dit, sa musique soulage l'esprit malade du roi. Saül fit dire à Isaïe, le père de David, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » David fut aussi désigné pour porter les armes du roi. Alors, si on continue la lecture, on sait que c'était des armes très lourdes, parce que quand David avait affronté le géant, il a refusé de porter l'armure, il n'a rien voulu, parce que c'était trop lourd pour se battre. Mais voilà que David était chargé d'amener les armes au roi et de les entretenir. Alors, en fait, désigné par Dieu pour l'instant, il est un simple serviteur du roi, et surtout pour calmer les colères du roi, et avec une harpe. Mais Dieu déroule toujours son plan. Un simple berger est entré dans la cour du roi. Il est rentré par la petite porte, mais il y est. Et petit à petit, il devient indispensable. Mais cette période fut de courte durée. Une nouvelle guerre éclata entre Israël et les Philistins, et les trois premiers fils d'Isaïe, donc les frères de David, ont été mobilisés. David doit revenir à la maison pour travailler dans la ferme familiale, faire paître à nouveau les brebis. Et après avoir été aussi proche du roi et de la place, Le voilà, retour case départ, à la maison. Pour David, ça peut être aussi un peu comme pour nous. C'est un enseignement reçu à l'école de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons accepter la discipline de l'école de Dieu. Dans nos vies, il peut y avoir des moments où nous avons l'impression de revenir en arrière. C'est un peu le cas de David. Aussi, de savoir changer nos plans pour le futur, savoir chercher la volonté de Dieu. Marcher avec Jésus, c'est aussi accepter d'être incompris, rejeté, blessé, injustement, comme le Seigneur l'a été lui-même. Et peut-être aussi savoir occuper la dernière place pour un certain temps. En plus de berger, David devient livreur. Vous trouverez ça au chapitre 17. Isaï, donc le papa de David, l'appelle et il lui dit « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef des milliers. » C'est un peu corruption, ça j'ai trouvé, mais bon, il donnait des fromages au chef. Ça. « Tu verras si tes frères se portent bien et tu me donneras des nouvelles. » Sachant que l'épha avec le grain pèse au moins 20 kilos, et les 10 pains et les 10 fromages en plus, on dépasse largement les 20 kilos. Et David, moi j'avais d'abord mis marcher, mais j'ai revu qu'il avait mis courir dans le texte, il avait 30 kilomètres à faire pour effectuer sa livraison. David ne discute pas, il obéit. Il nous est dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, il prit sa charge et partit comme Isaï le lui avait donné, ordonné. Encore une fois, Dieu s'est servi de cet humble acte d'obéissance pour faire participer David à la plus célèbre des batailles de sa vie, celle qui fera de lui le héros national, chanté par toutes les générations d'Israël, parce que c'est lors de cette livraison à ses frères que David rencontre le Goliath, le géant, qui nargue les troupes d'Israël et qui plus tard, vous pouvez le lire, sera vaincu par David. L'école de Dieu a fait passer David du pâturage au palais, puis du palais au pâturage et à la ferme familiale et finalement au champ de bataille, pour finir par régner un jour. Donc nous voyons comment les choses se mettent en place. Nous ne connaissons pas toujours les plans de Dieu pour nous, ni pourquoi il permet certaines épreuves sur le chemin de notre vie, mais prenez courage et sachez que la victoire sur nos géants à nous, dans notre vie, est toujours précédée par la victoire sur soi-même et remportée à genoux, donc dans l'obéissance. Faisons confiance au Seigneur qui sait nous délivrer de l'épreuve. Alors oui, je suis obligé de le dire, David, plus tard, c'était bien un humain comme nous. Il a même commis, c'est, on va dire, entre guillemets, peut-être le plus grave acte, il a même commis un meurtre en envoyant Uri, un soldat vaillant et fidèle, il l'a envoyé au front de manière que cet homme soit tué. Tout ça pour faire venir, lui prendre son femme et la faire venir au palais. C'était d'ailleurs, à noter en commentaire, la première fois que David ne partait pas avec ses soldats. Il est resté sur place et du coup, ben, il a été tenté et ça a fini en adultère. Mais ça, c'était plus tard. Mais les conséquences de ce péché ont été aussi dramatiques pour lui. Il y a eu des conséquences, il y a eu la perte d'un enfant, il y a eu même des conséquences pour ceux qui l'entouraient. Mais David, durant sa vie, a toujours su revenir à Dieu, demander pardon et, je l'ai dit, assumer les conséquences de ses péchés. Et Dieu lui a accordé son pardon. Et nous, maintenant, nous avons ce pardon par la mort de Jésus. Et David, Dieu l'a pardonné quand même alors que Jésus n'était pas encore mort. Mais Dieu a déjà montré son amour pour les hommes. Donc, ce n'est pas très long, mais c'est très bien. En conclusion, alors la conclusion, maintenant je vais pas vous mentir, je me suis beaucoup servi de ce livre de John Alexander, d'ailleurs c'est que le chapitre, et j'ai repris beaucoup de ses façons de s'exprimer. Et puis après avoir écrit tout ça, je me suis dit, ben ouais, c'est vachement actuel. Et j'ai regardé, le livre, il est sorti il y a 38 ans. Donc vous allez écouter cette conclusion et vous allez voir qu'il était visionnaire, ce frère. Enfin, je pense qu'il est décédé, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Et donc je l'ai recopié tel que, et cette conclusion m'a fait penser un petit peu, vous savez, quand on va au feu d'artifice, il y a le beau feu d'artifice, et à la fin il y a le bouquet final. Et pour moi, je me suis dit, tiens, ça c'est comme un bouquet final, cette conclusion. Donc je vais vous la lire en essayant de respecter les mots. Pour ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, vous êtes enfants de Dieu. Vous avez en vous l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui habite en vous par cet Esprit. L'Esprit de Dieu est un baume pour les blessures, une puissance de paix pour notre monde angoissé, un esprit de sérénité, capable d'apaiser les tourments de notre génération survoltée, livrée aux exigences du rendement, à la pression des médias et de l'informatique. 38 ans en arrière, hein, il écrit ça. Ce vent de folie entraîne aujourd'hui l'humanité vers le rejet de Dieu. Soyons comme David, des messagers de paix. Que notre témoignage soit guidé par le Saint-Esprit, comme cette harpe de David, génératrice de paix divine et de bénédiction. Ne permettons plus au stress de nous couper notre communion avec Dieu. Ne nous laissons pas prendre par le rythme de ce siècle de vitesse, au point de ne plus prendre le temps, de ne plus voir ceux qui sont dans la détresse. Au contraire, laissons l'Esprit de Dieu contrôler nos pensées, nos réflexes, nos réactions, notre emploi du temps, pour que nous puissions propager la paix de Christ auprès de tous ceux qui nous entourent. Et soyons des disciples de celui qui a dit « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Notre génération a besoin de messagers de cette paix pour calmer ses perpétuelles agitations. Voilà, j'ai repris vraiment tous les termes de la conclusion. Et oui, je suis vraiment... Ce frère était déjà bien dans l'actualité, parce que c'est en 88 qu'il avait écrit ce livre. Je voudrais encore, pour garder la tradition, vous donner une citation. C'est une citation d'une certaine Adrienne Maillet. Elle est romancière, enfin oui, elle est décédée maintenant. Elle est romancière et journaliste québécoise, décédée en 1973, qui dit ceci, qui résume aussi le message. « Le meilleur moyen de vivre une existence pleine d'idéal, tout en s'épargnant d'amères déceptions, est sûrement de garder son cœur pour Dieu seul. » Je vais le relire. « Le meilleur moyen de vivre une existence pleine d'idéal, tout en s'épargnant d'amères déceptions, est sûrement de garder son cœur pour Dieu seul. » Je voudrais encore prier. Oui, merci Seigneur pour et Père aussi, pour justement cette parole, cette Bible, et qui nous montre que tu as eu un plan de Dieu pour l'humanité du début jusqu'à aujourd'hui. Et au travers de Jésus, nous avons la conclusion de ce plan pour l'humanité. Nous avons le pardon des péchés, nous avons la vie éternelle qui nous est offerte. Mais tu ne nous caches pas aussi dans ta parole qu'il y a des choix à faire dans notre vie. Nous devons faire ces choix. Alors Seigneur, oui, tu nous guides des fois, tu nous montres le chemin. Et tu es patient, tu nous reprends quand il le faut. Et je te bénis pour cela parce que si nous voulons être des chrétiens fidèles, nous avons vraiment besoin de comme David, d'avoir ce cœur entier pour toi. Merci Seigneur encore de nous aider aussi à être des témoins autour de nous, dans nos familles, dans nos proches, dans nos amis, dans ces temps tourmentés aussi Seigneur, que comme David était un homme de paix, même si c'est vrai qu'il a participé à beaucoup de guerres, mais il a été considéré comme l'homme de paix. Ô Seigneur, je te demande aussi que nous puissions être vus aussi comme des hommes et des femmes de paix aussi autour de nous. Merci encore pour cette journée Seigneur et que tu nous accompagnes encore. Amen.